Chantal Doré à la barre d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette 32e émission qui boucle ce premier mois de janvier 2021. La semaine dernière, nous parlions des fameuses résolutions et je vous disais que je crois davantage aux décisions qu'aux résolutions. L'une de ces décisions que j'ai prises est de pratiquer davantage la gratitude. Jeannette Bertrand, que j'ai eu le grand honneur de recevoir avant les fêtes, parle d'ailleurs de la gratitude comme de la machine à fabriquer des petits bonheurs. Et comme nous avons donc besoin de les cultiver, ces petits bonheurs, en ce temps de confinement collectif. La gratitude nous aide à garder une meilleure santé mentale en chérissant ce qui donne du sourire dans les yeux. La gratitude, c'est entre autres de dire merci. Alors, je vous dis merci, cher auditeur. Merci d'être à l'écoute. C'est un réel bonheur pour nous, avec mes complices, de réaliser cette émission pour vous. La gratitude, elle aurait même le pouvoir de guérir de vieilles blessures, affirme notre première invitée, Christine Angelard, thérapeute en santé globale, conférencière et autrice. La gratitude, c'est aussi de chercher des pépites d'or dans ce qui peut sembler de vulgaires roches. C'est ce que faisait notre premier invité d'Au fil du temps cette semaine quand il était enfant. Guillaume Dulude est l'auteur du livre « Je suis un chercheur d'or », donc c'est le titre de son livre. Et ce livre trône au sommet des palmarès et nous sommes très fiers ici, à Canal M, la radio de Vue et Voix, d'avoir produit la version audio de ce livre vraiment rempli d'informations intéressantes pour apprendre à devenir un meilleur communicateur. Vous avez sans doute reconnu que Guillaume a déjà été notre invité en juin dernier. Il est le docteur en psychologie derrière la série Tribal. Alors moi aussi, je me considère comme une chercheuse d'or parce que je cherche des histoires de vie. Je cherche dans ce que vous pourriez nous dire, chers auditeurs, des histoires de vie qui sont inspirantes. Alors j'ai envie de vous tendre le micro et de vous dire: qu'avez-vous appris au fil du temps? J'aimerais connaître les leçons de vie que vous souhaitez partager avec nos autres auditeurs. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi de coûteux embarras et venez semer des pierres, des cailloux et d'autres pépites d'or sur notre chemin. Donc, j'attends vos nouvelles par courriel à CD pour Chantal Doré @chantaldoré.com, DAURAY.com. Donc, écrivez-nous vos pépites d'or de notre vie. Alors, un grand merci d'avance. Et évidemment, pour démarrer une émission sur la gratitude, on a décidé de faire un détour sur les chansons qui portaient soit le nom « Merci » ou « Thank you ». Et là, c'est une pièce d'Aido qu'on vous fait entendre qui s'appelle tout simplement « Thank you ». Et au retour, Christine Angelard et le pouvoir de guérison de la gratitude. c'était « Thank you » de Dido. Une chanson, ma foi, sur la gratitude et on en a tellement besoin de ces chansons de gratitude ces temps-ci. Alors, pour parler du pouvoir extraordinaire de la gratitude, je reçois Christine Angelard, naturopathe, thérapeute en santé globale et autrice de « La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé » aux éditions Édito, parues en 2018. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Chantal, bonjour, merci de me recevoir.
Oui, merci, hein, on commence avec le sujet des merci.
Oui, c'est un petit mot qui a beaucoup de pouvoir.
Oui, tellement de pouvoir, et c'est ce que je lisais dans votre livre, et j'ai toujours tenté de pratiquer la gratitude, mais là, je voyais que vous dites que la gratitude peut guérir nos blessures, et vous citez d'ailleurs plusieurs études qui démontre un lien entre la gratitude et la baisse de sentiments dépressifs.
Oui, oui, oui. Alors en fait, moi, je ne suis pas du tout psychologue et je me réfère aux travaux des psychologues. Moi, au départ, je suis thérapeute en santé globale, comme vous l'avez dit, naturopathe avec une formation française en médecine, mais ici, je travaille comme naturopathe. Et c'est la confrontation avec mes patients qui m'a aidée, si j'ose dire, à écrire ce livre au bout de X années. Oui, la psychologie positive, essentiellement, qui a débuté aux États-Unis avec les études du professeur Evans, Seligman et d'autres, nous ont montré que la pratique de la gratitude a un effet positif à la fois au niveau du psychisme, de nos émotions et de la santé physique. Et pour répondre plus précisément à votre question, ils se sont rendus compte, il y a des études tout à fait sérieuses qui ont été menées dans les universités américaines et d'autres après, ça fait une quinzaine d'années maintenant que cette branche de la psychologie s'est développée, on s'est tout simplement rendu compte que nos neurones ne pouvaient pas à la fois fonctionner en positif et en négatif. C'est-à-dire que c'est un peu comme le courant, ça. Soit il est,
il est branché.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si je m'applique ou si j'apprends à quelqu'un, si je l'accompagne à pratiquer une gratitude de façon régulière, ses idées négatives, ça ne va pas changer sa situation. Sa situation reste la même. Mais sa connexion neuronale, c'est à la façon d'envisager la vie, va être différente. Et la perception des choses va être moins noire, si on veut, voilà. Et de moins noir en moins noir, on va peut-être arriver à plus clair.
Oui.
Et voilà.
Et donc, c'est ça, j'ai...
Excusez-moi, c'est intéressant de réaliser qu'il y a une réalité physiologique. Les neurones ne peuvent pas à la fois être dans une émotion de positive, sans forcément que ce soit une gratitude et une joie immédiate. Mais petit à petit, c'est vers ça qu'on s'enligne, si j'ose dire. Ils ne peuvent pas à la fois être dans une émotion négative et une émotion positive. C'est-à-dire que la personne qui rumine en permanence le négatif, il va falloir l'aider parce que sinon, elle n'arrive pas à s'en sortir. Quoi. Voilà.
J'avais lu quelque chose de vraiment savoureux qui était « On ne peut pas être de mauvaise humeur quand on sifflote, quand on chante.
» Tout à fait. Ben oui. Et ça ne veut pas dire que la vie est forcément belle. Regardez comment sont nés les négros spéciaux, qui sont nés dans... C'était des esclaves, en fait. Les personnes qui ont développé ces champs noirs absolument extraordinaires, au départ, c'était des esclaves qui étaient maltraités dans des champs de coton ou de je ne sais pas quoi, là, et qui tenaient par le chant.
Oui, les chants de libération.
Les chants de libération, alors... Dans cette histoire, on dit aussi que c'était aussi une façon de communiquer entre eux, mais c'était surtout une façon de résister. De résister en se branchant, je dirais, désespérément sur du positif.
Oui, oui, c'est très beau. C'est pourquoi on aime autant la musique au fil du temps. Et vous parlez dans votre livre, justement, des blessures qu'on peut guérir. Vous notez, entre autres, les 5 grandes blessures de l'âme. J'étais curieuse de vous entendre à ce sujet.
Oui, là aussi, c'est un Américain, Piracos, le premier qui a déterminé qu'entre 0 et 7 ans, on est tous confrontés à certaines blessures, à des blessures, à différentes blessures. Donc, il a classifié un petit peu ceci, puis ensuite, ça a été repris par Louise Hay et puis par beaucoup d'autres. Donc, c'est 5 blessures de base qu'on va avoir, auxquelles on va être confronté entre 0 et 7 ans. C'est donc dans l'ordre, si j'ose dire, chronologique, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Alors, on a tous vécu des moments de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation ou d'injustice. Et puis, il se trouve que dans la vie de tout un chacun, il y en a une parfois, des fois un peu plus, des fois il y en a deux. Mais au moins, il y en a une qui va prédominer et qui va, que l'on va transporter toute notre vie, mais pas comme un boulet, comme une occasion de grandir. Alors, c'est très joli de dire ça quand on va bien dans un bureau. Voilà. Mais ces blessures, on les a pour les dépasser.
Oui. Et comment la gratitude nous aide à les dépasser, justement?
Ben justement. Alors, entre autres, alors il n'y a pas que la gratitude, hein, c'est ce que je raconte dans mon livre. Si vous voulez, moi, je suis confrontée à des patients qui viennent pour des problèmes de remise en forme, de santé en général, et qui ont aussi leurs propres blessures, comme moi, j'ai les miennes, etc. Et forcément, on a commencé par... les voir, ces blessures, avant de s'embarquer dans une psychologie positive à 100% en disant tout le monde il est beau, tout le monde est gentil et merci mon Dieu à longueur de journée, il faut d'abord s'attaquer à ces blessures. Et c'était un peu l'intérêt de mon bouquin où je donnais quelques outils, entre autres, parce que je ne suis pas la seule, pour se dégager de ces blessures. Et puis une fois qu'on a vu d'abord la blessure, qu'on en prend soin d'une façon ou d'une autre, qu'on se fait aider, là, on va pouvoir pratiquer cette gratitude parce que c'est comme si on prenait de la hauteur ou de la distance par rapport à notre blessure ou à nos blessures et qu'on voit ça d'un point de vue plus global. Et donc, la gratitude va ouvrir surtout l'énergie du cœur. C'est là où la gratitude va nous guérir. L'énergie du cœur, c'est elle qui peut véritablement faire des miracles et qui peut apaiser. Alors guérir, je ne vais pas vous dire que c'est ça qui va vous guérir un cancer, mais je vais vous dire que ça va apaiser votre cheminement au travers de la maladie. Voilà, il faut faire attention aux mots qu'on emploie.
Oui, absolument, absolument, parce que je regarde ici, il y a eu quelques soubresauts ces derniers jours, du côté de l'homéopathie, là, le Collège des médecins là, qui veut condamner Jacinthe René pour pratique illégale la médecine. Donc, je pense qu'on doit faire effectivement très attention aux termes, mais apaiser, oui, j'en conviens. Et vous employez d'ailleurs un terme en parlant du cœur que je ne connaissais pas, le cœur empereur. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est pas de moi non plus, c'est un terme, pour rendre à César ce qu'appartient à César, c'est un terme de la médecine traditionnelle chinoise qui nous apprend que nous avons, entre guillemets, deux cœurs. Nous avons un cœur physiologique que tout le monde connaît bien et qui est bien utile, mais nous avons, l'intérêt de la médecine chinoise, c'est de nous dire dès le début que nous avons ce cœur empereur qui est le pâle reflet de l'énergie céleste qui est en nous. Autrement dit, c'est ce qui m'avait intéressé, moi, jeune médecin, quand je me suis inscrite à ces cours de médecine chinoise, c'est de voir justement cette dimension plus verticale, si j'ose dire, des patients en général. C'est-à-dire qu'on a tous une parcelle d'énergie spirituelle en nous. Je parle bien de spiritualité, là aussi, il n'y a pas de religion.
Non, effectivement.
Même si la religion est une des formes de la spiritualité, il n'est pas forcément... on n'est pas obligé de jeter l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, là, mais là, je parle de spiritualité. C'est-à-dire que tout être a en lui une énergie sacrée, on va dire. C'est un mot peut-être moins... Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme mot qui est moins violent, là, pas pour... Mais donc oui, ce cœur empereur, c'est notre âme, c'est notre sagesse, c'est ce qui nous relie à l'invisible, c'est ce qui continuera à être une fois que la matière aura disparu.
Donc, en fait, ça cadre très bien avec notre émission parce qu'on parle de relier et d'un fil entre les générations. Donc je le vois comme une connexion, justement, tout ce qu'on a acquis, notre bagage, se transmet à la génération prochaine. Donc il y a un espace sacré là où on est dans la transmission à la prochaine génération.
Tout à fait, et la transmission de la joie, parce que on a longtemps entendu que le péché était originel, et pour plusieurs personnes dont je fais partie, enfin pour beaucoup de monde, c'est pas le péché qui est originel, c'est la joie.
Oui.
Et cette joie, c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut... C'est comme une petite lampe, moi, je dis souvent à mes amis, à mes patients, je leur dis, il faut garder notre petite lampe allumée. On ne va pas changer le monde. Mais là où je suis, avec ce que je vis, comment je peux mieux traverser ce que j'ai à traverser. Et ça, c'est peut-être effectivement ce qu'on a, les grands-parents ou les parents, mais encore plus les grands-parents, ce qu'on a à transmettre à nos petits-enfants. c'est que c'est l'espérance. Voilà. L'espérance, c'est pas que tout va très bien, c'est qu'il y a, il y a un chemin qu'on ne voit pas pour le moment, mais un pas après l'autre, on va peut-être sûrement même voir le chemin se dessiner.
Mais voilà. On a ce recul-là. Alors, je vous propose, Christine Angelard, d'écouter une pièce musicale et on poursuit tout de suite après notre entretien. Donc, il s'agit de Count Your Blessings, une chanson classique qui est ici interprétée par Holly Cole.
OK.
Count your blessings one by one. When dawn appears and day has just begun, they will light your heart with happiness. Make each hour bright and bring you gladness. Count your blessings one by one. When twilight falls and toil of day is done, and in sweet dreams abound, just waiting for you. Count your blessings while you
c'était Count Your Blessings, interprété par Holly Cole, mais c'est une vieille chanson écrite par Johnson Oatman qui date de 1897. Alors, comme quoi, hein, la gratitude,
on n'a rien inventé.
Non. On parlait, Christine Angelard, tout juste avant la pièce musicale, des liens intergénérationnels et de l'aptitude là, de nos aînés peut-être à nous aider à voir une plus grande perspective. Et vous racontez dans votre livre une histoire entre l'histoire en fait du bon et du méchant loup. Pourriez-vous nous la raconter?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, mais justement, c'est une légende amérindienne. Hein, c'est un grand-père avec son petit-fils. Et le grand-père explique au petit-fils qu'on a en nous un méchant loup et un gentil loup. On a des côtés très sympathiques, mais on a des petits côtés d'ombre, hein, dirait les Indiens. Et donc, il lui explique ça, tout le monde, même la meilleure personne, elle aussi, sa part d'ombre. Et donc, le petit garçon lui dit, mais comment on fait alors pour que ce soit le bon loup qui gagne?
Ouais.
Et le grand-père lui répond, ça dépend de celui que tu nourris. Voilà. Donc, est-ce que je nourris l'ombre en moi ou est-ce que je vais nourrir la lumière? Et plus je m'applique à nourrir la lumière et plus l'ombre va diminuer. Mais on va la traîner jusqu'à la fin, notre part d'ombre quand même, ouais. Mais moins violente.
Donc, dans la gratitude, il y a vraiment un exercice, une participation active pour cultiver.
Tout à fait, il y a une participation active vraiment, les travaux de psychologie positive nous démontrent, mais A plus B égale C, là, si je veux dire, nous démontrent de façon tout à fait scientifique que la pratique quotidienne de la gratitude, Seligman avait fait une étude où il montrait que si dans une journée, on arrivait à repérer 3 situations qui nous ont fait du bien, pas forcément gagner au loto ou je ne sais pas quoi, c'est 3 situations positives, si j'arrive à les repérer, et si je fais ça tous les jours, au bout de 3 semaines, la sensation de bonheur est augmentée. Rien n'a changé dans la vie, pas grand-chose, mais je me sens mieux. Voilà. Bon, ça, c'est une des expériences. Après, il y a aussi sur la longévité. On s'est rendu compte que les gens qui avaient cette aptitude, et c'est là où on n'est pas tous égaux, et c'est là où on a besoin d'aide. Les gens pour qui la gratitude, c'est naturel, et d'autres pour lesquels c'est plus difficile.
On doit muscler vraiment ce... J'ai envie, vous parliez d'études scientifiques et j'ai envie de vous faire entendre un extrait d'un film que vous connaissez peut-être, le film La Crise.
Ah bah oui.
Oui, hein? On écoute l'extrait, on en parle tout de suite après.
Pas homéopathe, allopathe! Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé! À 150 francs par personne, vous n'avez qu'à faire le compte. Maintenant qu'il est homéopathe, il voit plus que 10 personnes par jour. Il passe une heure avec chaque client, hein. Une heure. 12 personnes au lieu de 65, vous n'avez qu'à faire le compte.
Alors, c'est le film La Crise de Colin Serrault. Si vous n'avez pas vu ce film, chers auditeurs, je vous le recommande fortement. Donc, c'est l'épouse du médecin qui a changé justement d'orientation vers l'homéopathie. Et donc, on le voit là, c'est une médecine davantage préventive que notre médecine occidentale qui est plus prescriptive.
Mm-hmm. Oui, mais là, si vous voulez, je vais pas. C'est toute la différence entre la différence porte sur le temps accordé à son patient et sur le temps d'écoute et d'accueil. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus et je suis pas sûre qu'on ait le temps et en même temps que ce soit le lieu parce que la médecine reste l'apanage des médecins et il faut pas leur enlever. Nous en médecine complémentaire, nous accompagnons des sujets à aller mieux dans leurs émotions, dans leur corps physique avec des plantes, mais il est hors de question de s'opposer à la médecine classique.
Non, c'est ça, c'est là où il y a un beau complément et je crois que les gens peuvent avoir l'ouverture dans ce sens-là et non pas de penser remplacer parce que c'est là que ça peut devenir dangereux.
Et d'ailleurs, ça s'appelle une médecine complémentaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça vient compléter la médecine classique. Mais c'est le médecin qui porte le diagnostic, c'est le médecin qui donne un traitement. Les médecines complémentaires viennent soutenir et accompagner. Et bien évidemment, moi j'ai une formation de médecin au départ, mais je n'exerce pas comme médecin ici, et j'ai une formation de naturopathe, d'homéopathe et de médecine chinoise. Donc c'est des outils qui me permettent d'aider les patients qui par ailleurs sont suivis par leur médecin. Mais c'est une ouverture à avoir, bien sûr, mais il y a de plus en plus de gens qui l'ont. Il y a encore des structures qui coincent, mais l'ouverture, elle se fait. Elle se fera de plus en plus.
Bien, on entend d'ailleurs beaucoup en ce temps de pandémie, là, plusieurs professionnels de la santé dire d'investir sur la vigueur de notre système immunitaire.
C'est la base. C'est la base. Parce que des virus, il y en aura encore, et encore et encore. Et vous savez, c'est complexe hein, ce qu'on vit en ce moment. Parce que le gouvernement nage une brasse crawlée absolument fantastique, là, partout, dans tous les. On est confronté à quelque chose que l'on ne connaît pas et on essaie de tirer une ficelle à droite, à gauche, en allopathie pour trouver le meilleur traitement possible. Et c'est tout à leur honneur. Et à côté. Il était important de rappeler que l'individu a, lui, à prendre en charge sa santé globale, la façon dont il vit, la façon dont il mange, la façon dont il se repose.
Effectivement, c'est des leviers sur lesquels on peut agir. Donc, peut-être, Christine Angela, en terminant, peut-être un petit exercice que vous nous suggérez de faire, là, outre les 3 gratitudes par jour?
De tenir un cahier, de tenir un journal, de tenir un cahier et de noter donc tous les jours un petit peu ce qui s'est passé de bien. Parce que si j'ai passé de mal, il n'y a pas de souci, on s'en souviendra.
Oui, hein. C'est ça. Écoutez, c'était pour moi l'un de mes moments de gratitude vous recevoir. J'ai vécu avec vous un beau moment positif.
C'est gentil.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, « La gratitude qui guérit, comment soigner les blessures du passé » aux éditions Édito et ça a été publié en 2018.
Merci beaucoup.
Un grand merci à vous, Christine Angelard. Merci, merci.
Merci, belle continuation à tous et à une autre fois.
Au revoir.
Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
En cette deuxième demi-heure d'Au fil du temps, je reçois un grand aventurier, un explorateur derrière la série « Tribal ». Nous avons eu le plaisir de recevoir Guillaume Dulude, auteur de « Je suis un chercheur d'or » lors de notre émission du 30 juin dernier. Et d'ailleurs, vous pouvez l'écouter en ligne sur canalm.vuesetvoix.com ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion telles Spotify, Apple Balado et Google Play Music. Alors, avant de recevoir Guillaume, je lui offre une chanson, en fait, de voyage, d'aventure, finalement pour nous faire rêver dans l'imaginaire et probablement que Guillaume aura envie prochainement de reprendre la route et de découvrir plein d'autres endroits sur la Terre. Alors voici donc « Le tour de la Terre » de René Claude.
Quand j'aurai marché sur chaque pierre, quand j'aurai vu les néons de mille villes, quand je serai redevenu docile, alors je reviendrai près de toi, mon amour. Quand j'aurai l'univers en mémoire, quand je saurai la fin de l'histoire, quand j'aurai les yeux saturés de lumière, quand je n'aurai plus besoin du grand air. Alors je reviendrai près de toi, mon amour. Mais il faudra que tu m'attendes longtemps, longtemps. Auras-tu assez de patience tout ce temps, tout ce temps? Quand j'aurai fait le tour de la terre, sur chaque pierre, quand j'aurai vu les néons de mille villes, quand je serai redevenu docile, alors je reviendrai près de toi, mon amour. Quand j'aurai l'univers en mémoire, quand je saurai la fin de l'histoire, quand j'aurai les yeux saturés de lumière, quand je n'aurai plus besoin du grand air, alors je reviendrai.
Je reviendrai près de toi.
C'était Le Tour de la Terre de René Claude, une chanson qui parle d'exploration, celle de la Terre, mais aussi du champ intime, des relations, qui est le terrain de jeu de Guillaume Dulude, auteur de Je suis un chercheur d'or. Bonjour Guillaume.
Allô.
Hey Guillaume, on se connaît depuis quelques années, alors on se tutoie.
Ben oui, avec plaisir.
Nous avons eu le plaisir de te recevoir cet été pour parler des étapes de la vie, des rites de passage et de comment s'apprivoiser entre membres de générations différentes. C'était cet été, il faisait chaud et maintenant il neige.
Oui.
Et depuis ce temps, tu as lancé ce fameux livre qui est en fait un beau succès. Je suis vraiment très heureuse pour toi, surtout que tu l'as enregistré dans nos studios ici à Vue et Voix.
Oui.
Et écoute, tu as eu l'occasion d'aborder différents sujets de ton livre de différents angles. Mais évidemment, ici, au fil du temps, on parle beaucoup des générations et de ce qu'on peut apprendre les uns des autres. Alors, j'ai envie de te lancer sur l'enfance et même sur ton enfance à toi.
OK. J'ai
appris vraiment là, en entendant l'influence de ta mère et de ton père, je me suis dit, mais voilà, c'est ce que ça fait un Guillaume Dulude.
Oui, ben c'est sûr que j'ai eu des parents qui m'ont donné des belles choses, qui m'ont encadré puis qui m'ont montré à relever plusieurs défis de communication très tôt, particulièrement ma mère. Donc, je te dirais que cette histoire-là de communication a commencé très tôt pour moi.
Ah oui, vraiment, elle était très à la limite scolaire hein, pour t'apprendre vraiment à bien communiquer, apprendre ta communication en main, être responsable de tes messages.
Oui, ben ma mère est prof, hein. Fait que, elle est prof en maternelle, donc c'est sûr qu'elle a l'enseignement dans le sang, je pense. Puis je pense que en fait, elle n'était pas officiellement professeure à ce moment-là. Mm-hmm. Mais je pense que c'est pratiqué avec moi comme il faut.
Et de ton père, j'entendais le côté plus technique, le côté plus science.
Oui. Oui, mon père, il y a eu des entreprises, il y a eu mm-hmm. des usines et j'ai commencé à travailler très tôt, à 11 ans, je pense, j'ai commencé à travailler. Mm-hmm. Et j'allais avec lui, je me levais à 4 heures le matin, j'allais avec lui à l'usine, puis moi j'avais des tâches à faire à l'usine, comme un gars de shop, là, comme
ouais.
on dit. Puis, Le soir, les usines fermaient, mais mon père travaillait très tard, donc moi j'étais pogné avec lui là, c'était mm-hmm. lui mon lift, comme on dit, donc j'étais dans l'usine et là j'avais toutes les machineries pour moi pour faire mes projets. Puis c'est comme ça que je me suis lancé en robotique quand j'étais un peu plus jeune.
Ben c'est, je trouve ça merveilleux parce que ton cheminement illustre très bien les influences des parents sur notre parcours de vie. C'est vraiment, oui. je trouve, un beau mariage entre la communication et toute la mécanique que tu exprimes aussi savamment dans ton livre.
Oui, ben les parents, c'est nos premiers professeurs. Mm-hmm. Donc, un professeur avec qui tu as une relation importante va t'influencer, c'est sûr. Et on espère qu'on ait des professeurs qu'on aime, puis de qui on se sent aimé et qui vont nous apprendre des choses importantes, utiles et qui vont nous encourager comme on est, avec notre nature. Fait que je pense que les parents, c'est définitivement le début de l'apprentissage, le début des liens de professeurs. Puis après ça, ben je pense qu'on étend la capacité à s'attacher à nos parents à d'autres types de professeurs.
Oui, puis toi-même, je sais que tu as déjà donné des conférences dans les écoles secondaires, donc je t'amène sur le côté adolescence. J'ai oui. trouvé une vidéo là où tu dis ce que tu aurais aimé savoir à 16 ans.
Oui.
C'est quoi les oui. messages clés de ça?
Bien, je me souviens plus exactement de quelle vidéo tu fais référence, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup depuis
oui.
que je suis...
Très prolifique.
Mais c'est sûr que, je pense que tu fais référence à une vidéo où je rencontre des élèves de ouais. secondaire 5, parce que c'est une année qui est difficile, parce mm-hmm. que là, c'est la transition vers le cégep, et donc il y a beaucoup de pression qui vont sur eux, et on sait pas, ils savent pas vraiment dans quoi s'en aller, donc ils se fient avec ce qu'ils peuvent, donc les conseils qu'ils reçoivent, mm-hmm. en gardant leurs portes ouvertes, s'ils veulent pas trop aller dans des programmes tu sais, qui vont fermer leurs portes, comme ils disent, ils veulent se garder les portes ouvertes, donc typiquement, ils vont souvent aller en sciences pures, en sciences santé, même s'ils n'aiment pas tellement que ça. Donc, ça fait partie des rencontres que j'aime bien, parce que je pense que c'est important qu'ils sachent que la vie, c'est loin d'être linéaire.
Mm-hmm. Il y a différents chemins.
C'est ça, puis l'important, c'est d'avancer vers quelque chose de significatif pas à pas, puis de s'investir dans quelque chose au lieu d'essayer de réussir quelque chose. Donc, il y a toujours, ben, pas seulement les jeunes, mais tout le monde, on a l'impression de réussir sa vie, puis de réussir des choses, mm-hmm. mais on réussit sa vie en s'impliquant dans des choix, puis en générant des petits succès avec notre implication, et que on peut pas réussir directement sa vie en ligne droite. Donc, je pense que ça fait partie des choses que j'aimerais qu'ils sachent et mm-hmm. que j'aurais voulu savoir, tu sais, que j'ai appris un petit peu plus tard. J'ai eu la chance d'avoir eu des très bons professeurs, mais je pense que c'est important de s'en parler dès le secondaire.
Oui. Et quand on passe à la vie adulte, est-ce que tu crois qu'on détecte mieux les mécanismes de communication en vieillissant? Est-ce qu'on devient automatiquement un meilleur communicateur en vieillissant?
Je pense qu'il y a des choses qui s'améliorent et des choses qui se détériorent.
Mm-hmm.
Des choses qui s'améliorent, bien, la gestion émotionnelle a tendance à s'améliorer avec l'âge, mm-hmm. définitivement. Par contre, ce qui se détériore, c'est l'écoute. Mm. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins perméable à écouter les autres, parce que avec l'âge, on a avec la stabilité émotionnelle vient une certaine cristallisation mm-hmm. de la réception des idées. Donc, on est plus rigide avec l'âge et donc on est moins perméable au discours des autres. L'écoute, ça nécessite un entraînement, mais avec l'âge, je pense pas que ça s'améliore automatiquement. Je pense que tout le monde peut améliorer ça, mais si on s'en occupe pas avec le temps, ben on devient plus rigide, puis on devient moins flexible et perméable aux idées des autres.
Donc, c'est de développer vraiment de façon attentive. Là, j'ai eu ce passage-là ou ce parcours-là de vie, mais il y a toutes sortes d'autres façons de voir. Donc, de garder, quand on dit quelqu'un qui a gardé son cœur d'enfant, c'est un peu ça. Il est ouvert à la magie, à ce qui peut se passer.
Bien, je pense que ça aide définitivement d'être perméable à la nouveauté, d'une part. Mais aussi, c'est sûr qu'on n'enseigne pas comment il faut faire pour écouter. Puis, c'est quoi l'objectif quand tu écoutes quelqu'un? Parce que l'écoute, ça n'est pas véhiculé comme une tâche, c'est véhiculé comme une valeur, ce qui est un problème. Mm-hmm. C'est pas une valeur, c'est une fonction comme une autre, c'est une série de comportements comme un autre, et il y a des buts à chaque instant dans l'écoute, mais comme c'est pas enseigné, le cerveau, ça le motive pas à écouter. Donc, le cerveau, il calcule l'écoute comme étant un sacrifice de temps de sa propre expression. Et donc, le cerveau comprend pas en quoi tu vas être gagnant ou de quelle mm-hmm. façon tu vas être gagnant en t'exposant à quelque chose que, anyway, si t'es pas d'accord, puis ça vient pas de toi. Donc, c'est comme si tu fais juste faire plaisir aux autres pour bien faire. Mais c'est pas mm-hmm. vraiment comme ça. Fait que il y a plusieurs facteurs qui expliquent la difficulté d'écoute.
Puis effectivement, c'est vrai que ce n'est pas enseigné et je pense que juste de lire ton livre, là, c'est déjà un très grand pas dans cette compréhension-là de ce qui est vraiment une vraie écoute active, d'être conscient de tous les mécanismes qu'on déploie mm-hmm. nous-mêmes. Tu parles beaucoup aussi d'énergie à plusieurs reprises dans ton livre. Et là, on ne parle pas de quelque chose de spirituel, mais vraiment en termes... en fait, j'ai goût de t'entendre sur la fluctuation de notre énergie là, avec le temps, au fil du temps. Comment garder cette énergie-là en vieillissant?
Bien, quand on parle d'énergie, j'hésitais beaucoup à l'idée mm-hmm. d'employer ce terme-là parce que, tu sais, j'ai un background scientifique, j'essaie d'être fidèle à ce que la science dit, mais à un moment donné, la science utilise certaines terminologies qui sont pas nécessairement pédagogiques, si je peux dire.
En effet.
Donc, j'ai décidé de mettre de l'avant le terme énergie, mais de le définir avec des sous-facteurs, puis de le décliner avec des choses qui sont cohérentes avec la littérature scientifique. Et donc, il faut s'admettre que les humains ont de l'énergie, on sent qu'on a de l'énergie. Il y a différentes manifestations d'énergie. Et le type d'énergie que je voulais mettre de l'avant, c'est le mouvement ou le sens.
Mm-hmm.
Et une particule qui est en mouvement, c'est une particule qui a de l'énergie. et c'est directement relié au sens de la vie d'une personne. Donc, une personne qui n'a pas la capacité de se mettre en mouvement d'une certaine façon qui le représente pourra pas accéder au sens dans sa vie et ça va être un problème. Et la communication, ben, ça doit être un véhicule pour augmenter le sens en termes de directionnalité puis en termes de puissance ou en termes de vitesse, si je peux dire.
Mm-hmm.
Et ton autre question, c'était quoi? C'est au fil du temps, au fil de l'âge?
Oui, comment ça fluctue au fil du temps puis comment réussir à la garder, à bien active?
C'est qu'il faut, le sens, c'est pas quelque chose qui est une ligne droite mm-hmm. qui, un coup que tu es engagé sur une voie, tu peux fermer tes yeux puis ça continue tout seul. C'est quelque chose qu'il faut faire vivre.
Oui.
Donc, comment avec le temps maintenir de l'énergie, c'est qu'il faut constamment s'occuper des facteurs qui prédisent cette énergie-là, entre autres la vulnérabilité,
mm-hmm.
entre autres la clarification des buts, entre autres l'activation des bons sous-types de motivation ou du moins la gestion des bons sous-types de motivation en mettant l'accent sur une proportion plus grande de motivation intrinsèque versus toutes les motivations extrinsèques.
Donc, ce qui nous anime nous-mêmes, là.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas évident à faire ça. C'est une recherche en soi, là, mettre le doigt sur des motivations intrinsèques, les vivre, puis prendre des risques là-dedans. Fait que l'énergie, avec le temps, ben, c'est une question de comment on la cultive. Et dans notre culture, mm-hmm. avec la société qu'on a créée, qui est hyper stable et hyper sécuritaire, on n'a pas tendance à aller vers ça. On a tendance à augmenter notre sécurité, donc mm-hmm. à éviter les pertes. C'est l'évitement des pertes est une stratégie de type anxieuse qui n'a rien à voir avec le sens. Donc, mm-hmm. c'est pas surprenant que de voir le phénomène de vieillissement qui n'est pas strictement relié à l'âge. Il y a des gens qui commencent leur processus de vieillissement très, très tôt dans leur vie.
Absolument.
Parce qu'ils travaillent à se stabiliser, donc devenir statiques.
Mm-hmm.
Tandis que des personnes qui vieillissent en âge, mais ne vieillissent pas en termes de vitalité. Donc, je pense que c'est important de différencier le vieillissement corporel du vieillissement en termes de démarche psychologique et d'énergie vitale en termes de sens de sa vie.
Bien, je comprends pourquoi tu aimes tant explorer et voyager, parce que ça cultive carrément cet esprit-là de se mettre à la limite en danger. Là. Ça nous sort de cette sécurité-là et ça nous garde jeunes.
Bien, moi, c'est la façon pour moi. Tout le mm-hmm. monde a différentes façons de se sortir de sa zone de confort puis d'aller découvrir quelque chose. Ça, c'est ma façon, puis je l'aime beaucoup, puis mm-hmm. ça me va bien. Mais il y a plein de façons de sortir de sa zone de confort puis d'aller découvrir des choses puis apprendre, que ce soit intellectuel, interpersonnel, mm-hmm. par le biais d'apprentissage, d'activité. C'est pas une question de risquer sa vie, c'est une question d'aller vers de la nouveauté, qu'on sent qu'il y a quelque chose de significatif pour toi et dans lequel on s'investit, et là, on récolte quelque chose.
Oui, parce que c'est ça, se mettre en danger. On ne parle pas nécessairement là, de ce que tu as vécu dans certaines tribus, mais d'être plus dans la vulnérabilité, mais d'être dans la vie, dans quelque chose qui est en mouvement, qui bouge, où on n'est pas sclérosé.
Oui, c'est ça. Ça fait que, je pense que l'énergie, c'est mettre ensemble les processus et les fonctions qui nous permettent de garder le mouvement.
Mm-hmm. Hey, Guillaume, on a déjà couvert... Il y a tellement de sujets que j'aurais envie de discuter avec toi. Donc, je te réinviterai un jour et parce que
tu... c'est déjà fini?
Oui!
Ah! OK!
On se reparle, Guillaume, mais parce que tu dois avoir hâte de repartir à l'aventure, je t'offre le plus beau voyage de Claude Gauthier.
Ben, t'es gentil, merci.
À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Bye.
J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 33 ans et la vie. et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lac et de rivière, je suis de gibier, de poisson, je suis de roche et de poussière, je ne suis pas des grandes moissons, je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo, je suis de 10 enfants à table, je suis de janvier sous zéro, je suis d'Amérique et de France, je suis de chômage et d'exil, je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril, je suis prévu pour l'an 2000, je suis notre libération, comme des millions de gens fragiles, à des promesses d'élection, je suis l'énergie qui s'empile, Don Gaba à Manicouagan.
C'était « Le plus beau voyage » de Claude Gauthier. Pendant cette magnifique chanson, je réfléchissais au lien entre mes deux invités au fil du temps. Et je me disais, c'est un peu ça, le plus beau voyage. C'est autant celui qu'on fait à l'extérieur et évidemment qu'on peut moins faire ces temps-ci. Mais en ce moment, on est convié à faire le plus beau voyage, qui est plus un voyage intérieur. Et je trouvais que le pouvoir de la gratitude nous amène justement à explorer des contrées qu'on a peut-être tendance, qu'on est toujours dans l'exploration extérieure, à moins voir. Et je trouvais ça intéressant vraiment de voir ces deux aspects-là, le fait que... De se mettre en mouvement, comme Guillaume nous parle, mais en même temps, ce que Christine nous disait, c'est aussi la gratitude, les petits bonheurs. Il y a quelque chose qui nous met en mouvement, mais qui est plus cocooning et statique là-dedans. Donc, en tout cas, c'est un beau fil du temps que de mixer autant se mettre en mouvement intérieur et se mettre en mouvement extérieur sur le fil du temps. Et j'avais envie de vous donner un petit rendez-vous. Si vous pouviez remonter le temps pour aller à la rencontre de votre moi enfant, ça paraît surréaliste, mais il y a, grâce à Photoshop, un photographe qui s'appelle Connor Nickerson qui a fait un montage où il prend des photos d'enfance et il se met lui, en fait, il se met comme âge adulte dans et s'incruste dans ses photos d'enfant et ça donne comme un portrait du haut de lui enfant et lui maintenant, et c'est vraiment intéressant, c'est une série qui s'appelle Childhood, et je vous rappelle son nom, Connor Nickerson. Alors, dans le pouvoir des petits bonheurs, il y a la solitude qui est un beau voyage intérieur. Écoutons Ma solitude de Georges Moustaki. «
pour avoir si souvent dormi avec ma solitude. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Alors, ma solitude de Georges Moustaki. Et puisque notre thème portait notamment sur la gratitude, c'est avec un double gros merci que je remercie nos invités collaborateurs cette semaine, Christine Angelard, autrice de La gratitude qui guérit, naturopathe, thérapeute en santé globale. C'est Christine Angelard, angelard.com, et Guillaume Dulude, auteur de Je suis un chercheur d'or, son site internet communication psychom, psycom, bourré de bons conseils. La semaine prochaine, l'évolution de la technologie au fil du temps avec Stéphane Hunter d'Esquad et du le retour des radios, du radio-roman des deux Louises. Et évidemment, un gros merci, merci, merci à Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc qui m'accompagne en régie, Catherine Bourderon qui nous déniche des super invités. Alors, je vous dis merci et je vous souhaite une semaine pleine de beaux moments de gratitude, d'exploration et de petits bonheurs tout doux. À très bientôt!